Ce matin, le thème de la prédication, c'est le fossé divin. Le fossé divin. On va parler d'un sujet, donc prépare-toi, parce que je crois que c'est quelque chose qui peut te bousculer, qui peut changer tes perspectives, parce qu'on constate qu'il y a vraiment un décalage flagrant, un fossé énorme, un fossé énorme entre ce que la parole de Dieu nous révèle et notre quotidien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous analysez votre vie, à la lumière des Écritures, il y a ce fossé existant entre ce que Dieu a révélé à l'homme dans la parole et ce que tu vis au quotidien. Et c'est pour chacun d'entre nous à différents niveaux, mais c'est une réalité qu'on vit. Et en fait, la réalité, c'est que le ciel nous hurle constamment, le ciel hurle une réalité glorieuse. Et cette réalité, elle est très simple. C'est que tout est accompli, mais qu'il faut que ça se manifeste sur terre. Ce fossé existe entre le tout est accompli et le manifester sur terre. Je vous ai déjà dit qu'un paradoxe, le royaume de Dieu, c'est déjà, et en même temps, c'est pas encore. Christ s'est déjà révélé, on a fait la Sainte Cène, il a déjà donné sa vie pour nous, et pourtant, on n'est pas encore dans la pleine gloire de Dieu, dans la présence du Seigneur, on est encore ici, sur terre, dans notre réalité. Donc il y a ce paradoxe et il y a vraiment un fossé entre les réalités de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, et ce qu'on vit au quotidien. On a souvent l'image d'un Dieu lointain qui est dans le cloud céleste. Alors, chers fondamentaux, vous avez vu, je mets des mots anglais maintenant, parce qu'ils n'ont pas arrêté, pendant un an, là, un an et demi, à lâcher des petits mots anglais dans chacune de leurs phrases. Des fois, je les regardais, je dis, mais je comprends pas ce que tu me dis. J'ai eu des skills dans la foi. Je comprends pas, j'ai jamais lu ça, moi. Des skills dans la foi, ça veut dire quoi, ça? J'ai dû apprendre des nouveaux mots, même si je connais les... Mais les expressions, je les comprenais pas. Donc, voilà, le cloud céleste. Dieu est là-bas, il est lointain, il est en haut. C'est là où il y a toutes ses richesses. Et puis, voilà, c'est tout. Il est loin. Pendant que nous, on est ici sur terre et puis on rame, on galère, c'est compliqué, c'est difficile. Et pourtant, la Bible nous révèle un secret puissant. C'est ce que je viens de vous dire. Ce qui est déjà accompli doit être manifesté sur terre. Et la seule manière que ça se manifeste sur terre, c'est par toi. C'est fou. Par toi, tout doit s'accomplir, se manifester. Alors voilà la question finalement qui va nous confronter aujourd'hui, c'est pourquoi ne les voyons-nous pas encore, ces choses manifestes? Ou alors pas suffisamment? Souvent on entend dans l'église, mais on voudrait plus, c'est des expressions comme ça. Mais il faudrait faire, mais ce serait bien que... Vous voyez, c'est comme si on se projette vers des choses à venir, parce qu'on sait que quelque part est stocké quelque chose de bien plus grand, mais qu'on ne voit pas encore. Est-ce que tu sens parfois cette tension quand tu lis la parole de Dieu? Tu es en train de passer tes temps personnels avec Dieu, tu lis cette parole et tu sens cette tension en toi où tu dis, mais c'est une telle vérité, mais pourtant je suis en décalage avec cette vérité. Est-ce qu'il n'y a que moi qui sens ça ou toi ça va, tu dis cool, tranquille, ça viendra un jour, quand j'aurai 50 ans, cette parole sera pour moi. Non, moi quand je lis cette parole, ces vérités, il y a une tension, tu vois. Et cette tension, je réfléchissais beaucoup, mais qu'est-ce que c'est cette tension? Eh bien, c'est ce fossé, c'est ce décalage. Et dans ce fossé, parfois, il y a un tel silence, un silence de mort, où Dieu dit ça, mais ma réalité, je vois autre chose, mon quotidien me dit autre chose, les circonstances me disent autre chose. Et c'est comme entre deux, je suis là, il y a un silence de plomb qui est oppressant. Et là, des paroles comme « Dieu, quand est-ce que tu agiras ?» sortent de notre bouche. Quand est-ce que je serai à la fin de cette période de ma vie? Parce qu'on se sent sous tension. Tu dis ça, mais je ne vis pas ça. Quand j'ai commencé la menuiserie, Il y avait un moment où je commençais vraiment à... Ça faisait peut-être une année. Et des douleurs de dos terribles ont commencé à frapper à ma porte. J'avais mal constamment. Je me mettais sur des ballons, je roulais. Douleur, 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 douleur. Et pourtant, tout était conduit de Dieu. Hein. Et je vais voir le médecin. Le médecin, il fait une... Il fait un scanner, puis ensuite, c'était d'abord un scanner et ensuite l'IRM. Et au moment du scanner, il me dit, monsieur, mais ça ne va pas du tout. Votre dernier disque est censé être double et de moitié. Et si vous continuez comme ça, à l'époque, je devais avoir 24, 25 ans. Il dit, vous devez changer de métier. Là, je suis face à ce qu'on me dit, à des faits réels, avérés, face à une radio. Et ce que Dieu m'a dit un an ou deux ans auparavant, quand j'ai mis la main sur la porte de l'atelier, qui m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, c'est là que tu vas travailler. Deux réalités se confrontent. C'est comme deux plaques continentales, vous voyez, qui vont à un moment donné se frotter. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir? Des tensions énormes, des explosions, des tsunamis. Vous voyez, à l'intérieur de nous, parfois, c'est comme ça. Il y a une tension entre ce qu'on sait de Dieu, ce que Dieu nous a dit, et la réalité qui est face à nous. Est-ce que ça t'arrive? Et alors, j'étais là et j'ai dit, Seigneur, les choses ne sont pas compliquées. On va aller faire l'IRM. Le médecin m'a dit, on va faire l'IRM, on va voir ce qu'on peut vous faire, une infiltration pour vous soulager. J'ai dit, Seigneur, je prends la date. Et le jour où je passe l'IRM, je serai guéri, parce que tu m'as dit. Donc j'ai continué ma vie, j'avais les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs. Je fais l'IRM, et le jour de l'IRM, j'ai dit, Seigneur, je m'attends à toi, parce que tu m'as dit. C'est ta parole qui m'a dit. Et face au médecin qui vient avec l'IRM, il sort la truc et il dit, mais monsieur, je ne comprends pas, c'est pas le même dos. Et on était avec Chanel, là, et... C'est pas le même dos, c'est différent, mais je comprends pas pourquoi vous êtes là. Et là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, que tu es grand. Et les douleurs sont parties comme ça. À partir de ce jour-là, j'ai plus eu ces douleurs-là dans mon dos. Plus tard, parfois, quand j'étais dans des temps spirituels, il y a une douleur qui revenait. Et là, je disais, Seigneur, non, tu as dit. Et ça s'enfuyait comme ça. Mais pour te dire cet exemple qu'il y a un fossé entre ce que Dieu nous dit, notre réalité, et là, dans ce fossé-là, il y a un combat. Et ce combat, c'est toi qui dois le mener. Personne ne peut mener ces combats-là à ta place. L'Église peut prier pour toi, l'Église peut être avec toi, mais ces combats-là, c'est à toi de les mener. Alors, premier point, on va voir nos réalités célestes. Des bénédictions spirituelles à manifester, j'ai noté. Alors il faut qu'on s'accroche à cette vérité fondamentale. Nous avons tout en Christ. Quand je te dis ça, tu dis oui, c'est du vocabulaire chrétien, mais réfléchis un peu dans ta tête. Nous avons tout en Christ. Si la parole de Dieu nous dit ça, c'est que s'il écrit « vous avez tout », c'est que vous avez tout. Il ne manque rien. Aujourd'hui, dans notre contexte, on parle de crise économique, de manque, de maladie, on parle de guerre. C'est ce que nous vivons. Et ce que nous vivons dans le pas encore manifesté. Dans ta vie, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu vis dans ce qui n'est pas encore manifesté. Tu as tout dans le royaume de Dieu, mais ça ne se manifeste pas dans ton quotidien. Et en toi se développe cette tension spirituelle. Ce silence parfois qui t'oppresse. Alors, Éphésiens 1, verset 3 nous dit, premier verset, le verset de base qui va nous accompagner. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoute-moi bien, quand je lis ce verset-là, il m'énerve tout autant qu'il m'excite. Parce que je lis ça, béni soit Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, déjà, c'est Dieu le Père qui a le grand orchestre, qui a tout prévu. Chef d'orchestre, pardon. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais qu'est-ce que c'est toutes sortes de bénédictions spirituelles? Ça veut dire quoi? C'est bien, c'est mignon, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et en plus, ce n'est pas ici, c'est dans les lieux célestes. Donc super, mon Dieu, tu m'as béni, mais c'est inaccessible et en plus c'est loin. Comment je fais pour en bénéficier? Et là, le problème. Donc, vous voyez pourquoi ça m'énerve? Parce que tu me bénis, c'est super. Mais où est-ce que c'est stocké tout ça? Bah, c'est stocké dans le lieu céleste. Le verbe est au passé. Il nous a bénis. Ça veut dire que c'est déjà fait. Ça veut dire que c'est pas, il y a, dans la Bible, il y a des promesses qui sont conditionnelles. Tu vivras ça si tu fais ceci, cela dans ta vie. C'est des guides dans notre attitude et le caractère qu'on doit avoir dans certaines situations. Mais ici, c'est pas une promesse conditionnelle. C'est vraiment quelque chose qui est fait. Dieu nous a bénis. C'est fait. C'est acté. C'est disponible. Et il n'y a pas à réfléchir et à se poser la question, mais Dieu, quand tu me béniras? Et si tu me béniras? Quand est-ce que ta bénédiction viendra? Toutes ces paroles-là, toutes ces pensées-là, tu peux les évacuer. Parce que si Dieu t'a béni, il l'a fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que on connaît ces choses-là, mais on a une façon de penser parfois qui nous éloigne de ces vérités-là. Dieu a fait. Point. Est-ce que je suis capable d'accepter ça aujourd'hui? Tu me suis toujours? Mais finalement, qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est bien, on aime bien. Ah, t'es béni, t'as eu un enfant. Ah, t'es béni, t'as une nouvelle voiture. Ah, t'es béni, t'as une nouvelle voiture, t'as une nouvelle maison. Ah, t'es béni, t'as trouvé l'homme de ta vie. Vous voyez, on met le nom bénédiction un petit peu sur tout. Mais qu'est-ce que c'est la bénédiction? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'intervention divine. On l'a bien lu, c'est Dieu qui a béni. C'est l'intervention divine, concrète, dans nos vies, pour y apporter la faveur, la prospérité, la plénitude, l'épanouissement, le bien-être, selon la volonté de Dieu. Le bien-être selon la volonté de Dieu. C'est bien quand tu vas au sport, il y a un bien-être qui vient. C'est un bien-être charnel, c'est très bien. Alléluia. Mais le bien-être selon la volonté de Dieu, c'est autre chose. Alors attention, tout le monde, tout être humain, est capable de faire du bien. Tu n'as pas besoin d'être en Jésus-Christ, d'être chrétien, de venir à l'église pour faire du bien. Y a beaucoup de personnes qui sont généreuses de manière naturelle, qui sont honnêtes, qui sont même, on va dire, comment on dit ce terme, philanthropiques, vous voyez, qui vont vraiment faire du bien partout où elles le peuvent, qui ont un bon sens moral, mais elles vont tirer toutes ces choses-là de leur éducation, tirer toutes ces choses-là de qui elles sont. Mais seul l'enfant de Dieu peut aller puiser les bénédictions dans le lieu céleste. Seul celui qui a accepté Christ dans sa vie, qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on a fait la Sainte Cène, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas la peine, mais seul celui-là, l'enfant de Dieu, lui, peut aller puiser dans les bénédictions spirituelles. Ce n'est pas fou, ça? Ben, c'est la vérité biblique, tout simplement. Nous pouvons puiser directement dans le royaume céleste. Alors, on va prendre quelques exemples pour étayer ça. La guérison. La guérison en Christ est déjà acquise. Elle est déjà acquise. Et pourtant, tu as le corps qui grince, tu as des petits problèmes. Tu vois, moi, j'avais deux solutions quand je suis allé devant mon médecin. J'avais la première solution de dire, mais ça va pas, j'ai mal, tu comprends. C'est vrai que j'ai la douleur. Et puis, il me dit que je peux plus. Et j'aurais oublié ce que Dieu m'a dit au profit de ce que le médecin me dit. Donc je fais du médecin plus grand que Dieu. J'écoute le médecin, je crois que Dieu utilise la médecine tous les jours et c'est une bénédiction pour notre société et notre monde. Mais moi, mon Dieu m'a dit que c'est là que je travaillerai, que ce serait mon métier. Alors comment je peux accepter cette parole-là et la faire vide en moi? Et j'aurais dit, bah chérie, tu comprends, je vais arrêter, je vais mettre mon préavis, et puis je vais aller au Pôle emploi, je vais me reformer, et puis toutes sortes de pensées. J'ai dit non, Dieu, tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça le jour où je serai dans le truc qui tourne là, hein, la machine IRM, je serai guéri. Parce que c'est ta parole. Vous voyez, on a le choix. On a le choix d'écarter le fossé ou on a le choix de combler le fossé entre les deux réalités. Alors la guérison est déjà acquise, Ésaïe 55 Descartes, c'est par ces meurtrissures que vous êtes. On le connaît. Et pourtant on galère et on rame avec ce verset-là constamment. Ensuite, la provision, elle est déjà acquise. Dieu a déjà pourvu pour ta vie, pour toutes les situations que tu vas rencontrer. Et pourtant, c'est Philippiens 4, 19 qui nous dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Dieu pourvoira tous vos besoins. Alléluia. Alors pourquoi, eh bien, le manque persiste encore dans l'Église? Pourquoi le manque persiste encore dans ta vie? Pourquoi la maladie persiste encore? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans le pas encore manifesté. Ça ne veut pas dire que c'est pas là. C'est juste que c'est pas encore manifesté. On est tout proche. Mais c'est pas encore. Il faut que je comble le fossé plutôt que l'écarter. En plaignant, en râlant. En disant, mais j'ai pas assez, tu comprends, c'est la galère chaque fin de mois. Quand tu fais ça, quand tu parles comme ça, t'écartes le fossé. Quand tu changes ton attitude, ta façon de parler, que tu dis, Seigneur, tu as tout pourvu pour moi, change mon cœur, donne-moi la possibilité, je crois que tu vas faire quelque chose. Les situations commencent à bouger, tu es en train d'appeler le ciel sur la terre. Mais ça passe par toi. Parce que Dieu, lui, t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. C'est pas fou, ça? La femme est déjà là, le bébé est déjà là, la maison est déjà là. Vous voyez? C'est pas après ça qu'on court, mais on sait que Dieu s'occupe de nos affaires. Et si on en est pleinement convaincu, notre foi s'appuie sur ça. La paix, déjà acquise, Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix est déjà acquise. Mais elle n'est pas toujours manifestée quand tu as un collègue qui te fait la tronche, quand il y a quelqu'un qui t'accuse, quand il y a quelqu'un qui te cause des problèmes. Parfois, ta paix est troublée. Et pourtant, elle est déjà acquise. Alors, au milieu du chaos de la vie, quand tu dis, Seigneur, je prends la paix maintenant, je la fais mienne, et qu'elle se manifeste, et les gens regardent, mais comme Job, mais c'est quoi cette situation-là? Mais elle est vraiment pourrie, ta vie. Ouais, mais j'ai la paix en Christ. Parce que moi, je suis pas ici, moi. Moi, je suis là-haut. Ça marche? L'autorité. Luc 10, verset 19. Et sans équivoque, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'autorité est déjà à toi. Si tu es enfant de Dieu, l'autorité est déjà à toi. Rien ne peut te nuire. Alors pourquoi est-ce qu'on est parfois terrassé par les attaques diaboliques? Pourquoi on est parfois perturbé par certains esprits? Parce que ce n'est pas encore manifesté. On était dans le pas encore. L'autorité de Dieu se manifeste quand tu pries pour quelqu'un qui est possédé et il est libéré. L'autorité de Dieu se manifeste. L'autorité de Dieu se manifeste quand vous déclarez la parole de Dieu dans certaines situations et ça se passe. L'autorité de Dieu se manifeste quand tu appelles le règne de Dieu sur ta ville, sur ton pays, comme on va le faire à la marche pour Jésus. On ne va pas sortir juste pour qu'on nous voie, on va sortir pour déclarer l'autorité de Christ et pour que son règne vienne sur notre ville, dans notre pays et que les gens soient touchés et viennent à Christ. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais il faut pouvoir le déclarer. Ah, moi, j'aime pas sortir dans la rue, j'aime pas déranger. Ah, moi, j'aime pas mettre des... Je suis timide, je suis machin. Bah, t'as aucune audace. T'as aucune audace, t'attends pas du résultat. Vous m'excusez, hein, mais on aime bien mettre un peu dans des boîtes. Ah, mais moi, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Soit c'est ensemble, soit c'est pas ensemble. Mais ensemble, on est fort. Ensemble, on déclare, ensemble, on appelle. Mais il faut commencer par appeler tout seul dans ta vie, dans tes réalités. Comme ça, quand tu es ensemble, la Bible elle dit qu'on est encore plus fort. Et il y a certaines situations comme ça, où ensemble, eh ben, on fait trembler les forteresses. Alors, on va préparer tout ça dans le jeûne et la prière, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, le problème, c'est pas que le coffre de Dieu est vide. Il y a un coffre-fort là-haut, le problème, c'est pas qu'il est vide. Le problème, c'est parfois, on agit en tant que chrétien comme si le coffre-fort était inaccessible ou alors qu'il était fermé à double tour. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vis dans ta vie et puis tu sais que c'est là, tu sais intellectuellement, c'est très bien, mais j'ai pas les clés, je sais pas comment faire et j'ai besoin qu'on me forme et j'ai besoin qu'on fasse plus de réunions de prière, j'ai besoin qu'on fasse plus ceci et cela. On cherche des moyens sans comprendre que ça vient de nous, de notre cœur, de notre attitude. Deuxième verset clé, Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Attends, je reprends parce que du coup, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et maintenant je lis, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ah mais en fait je suis déjà là-haut moi. Ça veut dire que ce qui est là-haut, j'y suis déjà. Ça veut dire que j'ai juste à le prendre. Mais ça change tout. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais tu sais que t'es assis au phare, mais en même temps t'es assis là-haut. Dis ça à ta femme. T'es assis au milieu du coffre-fort. Il y a toutes sortes de bénédictions. C'est incroyable. Alors c'est la claque, hein, parce que finalement on se rend compte qu'on n'est pas sur le banc des remplaçants, on n'est pas au fond de la classe, on n'est pas les... Non, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, là où le Père m'a déjà béni de toute bénédiction. Ça veut dire qu'il ne peut rien me manquer. Mais quand tu réalises ça et que tu analyses ta vie, tu dis, ok, je suis là spirituellement, mais dans ma réalité, il y a un monde, il y a un gouffre. Jésus, on a lu le verset qui dit qu'il est le pain de vie descendu sur terre. Dieu envoie Jésus, et quand je crois en Jésus, je peux remonter là-haut. Il m'a fait asseoir, et je suis béni grâce à Jésus. C'est incroyable. C'est-à-dire que je peux monter comme ça, puiser dans les réalités spirituelles. Alors j'aimerais te poser la question, quand est-ce que tu as osé prendre une petite bénédiction pour ta vie, dernièrement là, où tu t'es dit, bon, le boulot, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Allez, monte-moi. Tu vois, avec détermination, parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que le problème, c'est que parfois on a une attitude de mendiant. On est là dans la prière, et Jésus, et gna gna gna, gna gna gna. Et c'est long, et on s'endort, et on fait toute notre vie, et tous nos problèmes. Alors que Jésus dit, mais viens, prends, saisis, déclare, proclame, dis, la parole nomme, la parole amène à la vie. Dieu a amené les choses à la vie par la parole. Nous sommes faits à son image, c'est par notre parole. Cette imagerie, ce scanner ne me condamnera pas. C'est non. Parce qu'il m'a dit autre chose. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu vois, le mendiant, il est comme ça, il réclame. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît? Je sais que tu as. Donne-moi quelque chose. Il se bouge pas, il attend comme ça. Mais l'héritier, c'est pas pareil. L'héritier, c'est... Je vais acheter un petit immeuble ici. Là-bas, on va développer le capital. Oh là là, celle-là, elle me plaît. C'est ma femme. Et les mecs, moi, quand j'ai vu Chanel, j'ai dit, elle est pour moi. Il n'y en a pas un autre dans l'église qui va la prendre avant moi parce que, celle-là, c'est ma femme. Je plaisante, hein, mais il y a une part de vérité. Je vais vous donner un exemple biblique. Vous vous souvenez de des fils de Sheva, on ne va pas le lire, mais juste essayez de vous souvenir de cette histoire-là, c'est dans Acte 19. Ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de chasser les démons au nom de Jésus parce qu'ils voient qu'il se passe des choses incroyables. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous vous en souvenez de ce qui se passe? Le démon, il va leur répondre quelque chose. Il va leur dire, je le connais. Jésus, je le connais. Une autorité spirituelle, Jésus. Jésus, il est vu dans le monde spirituel. Il n'y a aucun problème. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait c'est qui le patron dans le monde spirituel. Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et il s'est jeté sur eux. Pourquoi? Donc le démon, il va venir, il va se jeter sur eux, il va les dévorer, faire ce que vous voulez. Ils ont joué au malin avec le nom de Jésus. Mais en fait, ils n'étaient pas en Christ. Leur cœur n'était pas à Christ. Leur cœur n'était pas circoncis. Leur cœur n'était pas encore sauvé, lavé du sang de Jésus. C'est ça la différence. La différence, le mendiant, c'est ça. Il est là. Il n'est pas en Christ, le mendiant. Il n'a pas compris qui est son père, le mendiant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, on est comme des mendiants. On pleurniche. Et quand tu commences à pleurnicher, tu élargis le gouffre. Plutôt que de combler ce gouffre, ce fossé. Est-ce que tu me suis? Il y a deux positions, le mendiant, l'héritier. Choisis l'héritier. Parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu es l'enfant de Dieu. Il a fait de toi l'héritier du royaume. Tu es assis au milieu du coffre-fort. Dis-toi, je suis assis au milieu de toutes sortes de bénédictions. Dis-le à ta tête. Parce que ta tête, parfois, elle a du mal à le comprendre. Elle est envahie par toutes sortes de pensées. Mais je suis assis au milieu de toutes sortes de bénédictions. Je parlais aux filles ce matin, là, Sonia et Brenna, et je les entends parler, ouais, machin, Macron, machin. J'ai arrêté de parler comme ça! Ça, c'est... Ah! On est dans l'église ici, c'est le lieu de la foi! J'ai pas osé lui parler comme ça, parce qu'en moi, ça bouillonnait, tu vois. Parce que, tu vois, on est envahi par toutes sortes de pensées. Lui est pas bien, lui est ceci, et lui c'est cela, et lui c'est machin. On est là pour bénir. Seigneur, je vois ce qui se passe, mais moi je veux connecter le ciel à la terre. Je ne veux pas faire autre chose. Alors je ne vais pas me laisser accabler par toutes sortes de pensées. Ça marche? Alors, finalement, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils stressés, malades, fauchés, esclaves de leur peur, de leurs angoisses, de la dépression? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on vit concrètement dans le pas encore manifesté et on ne se tourne pas vers le déjà accompli. Arrête de regarder ce qui n'est pas encore, mais tourne-toi vers ce que Dieu a dit qui est déjà accompli. Tourne-toi vers toutes sortes de bénédictions. Ça va donner en toi l'espoir, l'espérance. Ça va alimenter ta foi pour oser proclamer des vérités qui vont changer les choses concrètes dans ta réalité. Mais quand tu alimentes ta réalité, là, c'est comme être devant l'eau qui boue, t'attends. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je vais te confier un truc. Il y a des vieux chrétiens qui prient même plus. Ils savent tout, ils prient plus. Ils ont lu 3 fois la Bible, ils se sentent comme ça, ils prient plus. Ben, si tu pries plus, t'as beau savoir. Le problème, c'est que Dieu te demande de nommer les choses, d'appeler les choses, de proclamer les choses. Et tu vois, dans les églises, les réunions de prière, elles sont de plus en plus faiblardes. On ne vient plus prier parce que tu comprends, moi, quand j'étais jeune, j'allais prier. J'ai déjà entendu ça. Mais j'ai éteint le Saint-Esprit et maintenant, tout va bien. Et on s'enorgueillit un peu, j'ai fait ma vie, j'ai réussi. Non, les chrétiens, on doit prier toute notre vie. Parce que c'est le seul moyen d'alimenter notre foi, que notre foi soit vivante. Qu'elle soit audacieuse, qu'elle transforme les réalités. Si tu arrêtes de prier, tu ne peux plus déclarer les vérités de Dieu. Et si les vérités ne sont plus déclarées, ben il ne se passe plus rien. Alors le point de contact, le deuxième point, c'est le point de contact. On va voir le point de contact. C'est notre foi. Si tout est déjà là, si nous sommes assis et que le coffre est ouvert, le problème, c'est que nous ne mettons pas notre foi en action dans certaines situations. Peut-être que tu y arrives dans certains domaines de ta vie, Mais dans d'autres domaines de ta vie, la foi ne se manifeste plus parce que tu crois plus suffisamment, tu l'alimentes plus suffisamment. Hébreux nous dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Souvent, on reste, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère. Alléluia, j'espère. C'est bien, mais c'est une démonstration. Je veux démontrer que ma foi est vivante. Montre-moi ta foi par... Vous connaissez ce verset ? Je te montrerai ma foi par mes œuvres. On va voir ce qui se passe dans ta vie. On va voir que, waouh, c'est vraiment Dieu qui agit. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. La foi, ce n'est pas un concept fumeux. Hein. Un truc, une idée abstraite. Je dois croire en Dieu. C'est concret. C'est je puise dans le coffre, je déclare, ça s'accomplit ici. Après, peu importe le temps entre les deux, mais il y a une conviction profonde en toi que Dieu va accomplir ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà donné. Ce n'est pas conditionnel. Tu t'appuies sur ce que tu sais être vrai. Alors, le problème, c'est souvent la déconnexion. Ce gouffre est induit par une déconnexion entre le ciel et la terre. On va nommer quelques points, mais comme ça t'aide à réfléchir. C'est des attitudes de déconnexion. Nous avons parfois des attitudes de déconnexion. Et c'est, dans notre pays, c'est souvent la réflexion excessive. On réfléchit. On sait bien réfléchir, on est fort, on intellectualise tout, on analyse tout. Mais on ne met pas en action. Tu vois, on reste sur nos pensées, dans notre réflexion. Tu laisses ta raison, ta logique purement humaine contrôler tes actions, contrôler tout ce que tu fais. Ensuite, tu peux avoir... Celle-là, elle m'agace particulièrement dans le monde chrétien. C'est... si Dieu le veut. Tu vois ? Ça, c'est insupportable. Arrêtez de dire ça m'énerve. Ou vous le dites aux collègues, vous ne le dites pas à moi. Je vous le dis comme ça, c'est dit. Si Dieu veut. Mais on sait ce que Dieu veut. Il m'a béni toutes sortes de bénédictions. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis béni en Christ. Pourquoi ? Si Dieu veut. Dieu veut te bénir. Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu persévères. Dieu veut que tu le représentes. Dieu veut que tu le manifestes. Ah, si Dieu veut, j'irai déposer mes CV. Dépose tes CV, tu verras comment Dieu va ouvrir une porte. Bouge-toi. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment donné, faut pas tout spiritualiser, mais si Dieu a déjà, je vais pas prier 3 heures. On est maudit parce qu'on doit aller travailler à la sueur de notre front tous les jours, mais dans notre malédiction, on est béni en Dieu. Tous les jours, tu iras bosser, c'est comme ça. Mais tu seras béni du Seigneur dans ta façon de travailler, dans ta façon d'être, dans qui tu seras. C'est comme ça. Tu es déjà béni. Ça marche ? Alors, si Dieu veut, c'est aussi une fuite. C'est aussi une fuite. Une fuite qui se matérialise souvent dans l'Église par le service. Je fais mon service, je suis concentré sur mon service, je ne vois pas au-delà de mon service, et puis, si Dieu veut, il fera quelque chose. Et puis l'opportunité arrive devant toi, mais t'ouvres pas la bouche. Aucune audace, aucune foi, aucune initiative. Mais Dieu travaille avec toi. Dieu fera. C'est le Dieu fera. Ah bon, il fera. Il fera quoi? Il fera quand? Moi, quand on me dit ça, j'aimerais savoir. Mais quand il fera? Comment il fera? Comment tu t'es sûr que Dieu fera? Mais tu sais pas dire plus. Dieu fera. Mets-toi en action et Dieu fera. Ça marche? La peur de l'échec ou du jugement. Je vais pas oser faire ceci ou cela parce qu'on va penser que je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, cela. Tout ça, c'est des mensonges qui t'empêchent d'être dans le déjà accompli. Tu es dans le pas encore et tu t'affaisses sur toi-même. On a parlé du rôle crucial de la prière. C'est pourquoi je vous dis en Marc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand nous prions, ce n'est pas pour essayer de convaincre Dieu. Mets-toi ça bien en tête. Tu n'es pas en train d'essayer de convaincre Dieu que tu as besoin de manger tous les jours et que du coup, ce serait bien que tu aies un travail et que du coup, ce serait bien que ça arrive avant les prochains 6 mois. Dieu, il sait tout ça. Vous comprenez ce que je dis ? Arrêtez d'essayer de convaincre Dieu. Ta foi, quand tu pries, c'est pour saisir les bénédictions, je le répète, spirituelles, déjà acquise. Déjà acquise, déjà acquise. Et la ramener dans notre réalité terrestre. Ton quotidien ne changera pas si ta foi ne change pas. Ce n'est pas possible. Si ta foi n'est pas active, ton quotidien ne peut pas changer. Tu vas toujours attendre que quelqu'un prie pour toi, que quelqu'un te prenne par le bras. Oui, il faut tendre la main, mais c'est Jésus qui tend la main à Pierre. Hein. C'est personne d'autre, ce n'est pas le pasteur qui est là. Ouais. Non, c'est Jésus tend la main à Pierre et il le relève. Ça va? Alors notre rôle, dernier point, c'est de rétablir la connexion entre le ciel et la terre. Et j'aimerais que tu réfléchisses déjà là, comment tu peux concrètement rétablir cette connexion entre le ciel et la terre. Si tu es un vieux chrétien qui prie plus, commence par là. À t'adresser à Dieu déjà. À avoir des temps avec le Seigneur. L'Église, le monde attend quoi? Que nous arrêtions de vivre à moitié. Moitié chrétien, moitié autre chose, un hybride bizarre qui vit dans ce fossé-là, qui prend ce que Dieu, il a envie de prendre de Dieu, ce que le monde lui propose. On n'est pas des hybrides, on est des enfants de Dieu, on est des héritiers. On doit dispenser, on doit commencer à s'occuper de notre héritage et à le distribuer, à donner à nos voisins, à donner à nos familles, à prier pour la libération à gauche, à bénir à droite, à libérer nos finances là, à être concret dans une autre situation. D'accord? Alors, 1 Timothée 2, verset 4, c'est Dieu qui dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À nouveau, est-ce que Dieu veut sauver mon voisin? Est-ce qu'il veut gagner? C'est très clair. Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce qu'ils sont tous sauvés? Non. C'est pas parce que Dieu veut que ça va s'accomplir. D'accord? Parce que ça dépend de ce que nous, on va mettre en œuvre. Dieu veut, c'est son désir le plus profond, mais il faut que moi, j'ouvre ma bouche. C'est le désir de Dieu. La volonté de Dieu est claire et elle est pleine d'amour. Je veux sauver tout le monde. Je veux bénir tout le monde. De toutes ces bénédictions, déjà, c'est pour tout le monde. Les enfants de Dieu y ont accès et les enfants de Dieu doivent les libérer. C'est ton rôle, c'est mon rôle. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc fonction des ambassadeurs. Nous sommes un canal. Mais pour ça, il faut vraiment être profondément être concerné par ce que réellement Dieu veut. Et là, je n'ai pas prié à genoux 2 heures pour vous annoncer toutes ces choses-là. J'ai ouvert ma Bible et j'ai vu que Dieu veut ces choses-là. Et je dois être concerné par ça. Ok, Seigneur, vous voyez, quand vous pensez au fait que Dieu veut bénir votre famille, vos voisins, vous commencez à les voir différemment. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'es pas dans l'attente, je prie, Dieu fera. Et je verrai ce qu'il fait. Tu es, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir? Qu'est-ce que tu me proposes maintenant? T'es comme un footballeur qui attend le ballon. Parce que quand il y aura le ballon, ce sera son moment. Il y a trop de chrétiens qui attendent. C'est une fuite. Dieu fera, j'ai prié. Je ne sais pas quand il fera, mais j'attends. J'attends l'opportunité. J'attends le moment où je vais faire la différence. Parce que moi, je suis animé. Là, je vais pouvoir proposer une bénédiction spirituelle que personne ne peut proposer. Un réconfort que personne ne va pouvoir proposer, un amour qui dépasse. Et quand tu es comme ça, ça te confronte à ton propre cœur. Est-ce que je serais capable de le faire? Parce que tu vois, Seigneur, mon cœur. Et tu dis, mais Seigneur, c'est en toi, par toi que je serais capable. Alors je fais un pas de foi. Moi, je ne suis pas capable parce que, Seigneur, je suis un petit peu trop égoïste en ce moment. Mais Seigneur, tu m'ouvres les yeux. Alors je veux regarder. Et là, tu élargis mon cœur. Je fais un pas de foi, il y a un miracle. Tu ne seras pas parfait. Mais tu vas dire, Seigneur, je vois ce que je suis en train de voir ce que tu as envie de faire dans telle vie, dans telle situation, mais je ne sais pas si je vais être capable. Renforce-moi, donne-moi de cette bénédiction, donne-moi de cette vie pour que je la libère moi-même. Ça change ton cœur. Vous voyez, c'est l'attitude. Tu n'es pas en train d'attendre. Si tu attends, il ne se passera rien. Alors, je termine avec 4 points et je vous laisse aller manger. pour ramener ce lien, pour retrouver, pour combler ce fossé, on va voir juste quelques petits points. Il faut lutter contre l'égoïsme, l'égocentrisme ambiant de la société. Ça nous enveloppe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça nous enveloppe. Ce n'est pas le message de Christ. Ce n'est pas le message de Christ, mais c'est là. On est concentré sur nous-mêmes, sur nos envies, notre confort, notre vie tranquille. Et pourtant, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le don de soi. C'est d'être focus sur les autres. C'est quelque part l'égocentrisme nous coupe de Dieu. Il nous coupe, il nous empêche d'être des canaux de bénédiction. Ah, il faut traiter le sujet. C'est important. Ensuite, c'est renoncer au besoin de tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Si on veut tout contrôler, on ne laisse pas place au miraculeux. Et quand j'appelle le ciel sur la terre, c'est le miracle qui se produit. Et ce miracle-là, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas quel moment, mais tu dis, Seigneur, il y a besoin d'un miracle dans cette situation, je puise dans les bénédictions célestes. Et si tu veux tout maîtriser, je vais faire... Vous voyez, je suis le joueur qui est là, un joueur de foot, il ne sait pas exactement comment l'action va se passer, mais d'un coup, il y a la fulgurance. Il faut être prêt quand la fulgurance de Dieu arrive. Si tu es dans tes habitudes, dans ton contrôle, tu ne la vois même pas, la fulgurance. Tu ne vois même pas ce que Dieu prépare. Tu n'as pas ce discernement. Tout simplement, c'est le discernement dont nous parle la parole de Dieu, d'être là au bon moment, d'être là où Dieu va agir. Pas être là où il a agi, mais d'être prêt quand il va agir. Et ça, c'est délicat. Ensuite, on va voir que, eh bien, on comprend que très vite que, quand on est dans cette attitude-là, toutes les situations se simplifient. Vous comprenez que je suis au ciel, que la maladie n'est pas au ciel. Est-ce qu'elle est au ciel, la maladie? Elle n'est pas au ciel, pourtant moi je suis au ciel. Alors Seigneur, dans cette tension-là, je veux comprendre ta volonté, je veux agir comme je dois agir. Pour mon corps, pour les gens qui m'entourent, quand on prie. Ensuite, on a quoi? Il n'y a pas de douleur chronique. Il n'y a pas de faiblesse là-haut. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de stress financier, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de déprime, il n'y a pas de tourment au ciel. Le péché n'est pas au ciel. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de guerre. Alors chaque fois que tu déploies dans la prière cette foi-là qui ramène les vérités, tu rapproches le ciel de la terre. Mais on ne veut pas juste faire ça de manière ponctuelle, une fois de temps en temps quand notre foi est motivée, une fois de temps en temps quand on est arrivé à l'église, on nous a vraiment soufflé dessus, on nous a imposé les mains. Ce n'est pas qu'à ces moments-là, c'est régulièrement. Seigneur, je veux cultiver ta mentalité. Toutes les bénédictions sont dans le royaume de Dieu. Je veux être prêt là. Je veux déclarer, je veux proclamer, je veux annoncer, je veux appeler à l'existence, je veux nommer les choses pour que ça s'en aille autour de moi, pour que vraiment ton royaume s'élargisse autour de moi. Amen. Ferme tes yeux avec moi, on termine par la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, on a été vite ce matin, mais je pense que ton message est très simple et très clair. Nous voulons combler le fossé qu'il y a entre notre quotidien, Seigneur, et la réalité que l'on peut lire, que l'on peut découvrir dans tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous donnes comme mandat aussi en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour cet héritage qui est glorieux en toi. Et Seigneur, on ne veut pas s'en priver, on ne veut pas s'en priver. Jésus, aide-nous, Seigneur, à vraiment demeurer dans le lieu céleste. Seigneur, à nous détourner de toutes ces choses qui nous déconnectent. Seigneur, de cette réalité profonde et spirituelle. Jésus, on veut être des chrétiens, Seigneur, qui soyons audacieux dans la foi, qui réellement déclenchent cette puissance venue du ciel dans les vies qui nous entourent. Seigneur, l'évangile est une puissance. Seigneur, c'est pas quelque chose de juste confortable, ou juste on est bien. Oui, on est bien, oui. Mais il y a une puissance pour tout simplement repousser, Seigneur, le malin qui sait nous enfoncer plus profondément dans ce fossé-là. Il ne veut pas qu'on croie, il ne veut pas qu'on déclare, il ne veut pas qu'on ouvre la bouche. Il nous empêche de prier, il nous empêche de nommer. Parce qu'il sait que lorsqu'on nomme au nom de Jésus, que nous sommes en Christ, Seigneur, les forteresses tremblent. Alors Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. S'il y a une réflexion excessive, on veut l'abandonner. Seigneur, s'il y a une incrédulité, on veut l'abandonner. S'il y a une attitude passive dans la vie de l'Église, dans la vie du corps de Christ, on veut l'abandonner, Seigneur Jésus, on veut se réveiller. Seigneur, s'il y a des distractions au quotidien, le travail, les loisirs, Seigneur, les écrans, Seigneur, on veut faire une pause là-dessus pour vraiment venir dans ta présence. Seigneur, si on a notre côté égoïste, Seigneur Jésus, qui prend le contrôle, on veut l'abandonner, Seigneur, pour pleinement vivre ta grâce. Seigneur, tu as fait ta part. C'est une part parfaite, c'est une part complète, Jésus. Tu n'as pas fait à moitié. Et Seigneur, on veut l'accepter que tu as tout accompli. Le ciel attend, Seigneur, et hurle. Le ciel nous hurle. Le ciel est en train de crier pour nos vies. Tout est accompli. Amen. Seigneur, c'est comme cette image où on entend les anges qui chantent, le Père qui est là, le Fils qui est heureux dans la gloire et qui crie, mais tout est accompli. Prends, saisis pour ta vie. Prends ta part. Fais tienne les promesses que je t'ai offertes. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Manifeste, Seigneur, tes réalités divines sur la terre pour nos vies. Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes les personnes qui ont des angoisses, qui sont perturbées, Seigneur, dans cette salle. Seigneur, qu'il soit fait au ciel, sur la terre comme au ciel, Seigneur. Que cette nuit, elles dorment bien. Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin de sommeil ici. Jésus, tu leur accordes le sommeil maintenant parce qu'elles ont la paix. Elles ont le bien-être en toi, Seigneur. Seigneur, là où il y a des maladies chroniques, où on a baissé les armes, Seigneur, on a prié tant d'années, on a lâché, Seigneur, on déclare la guérison. Selon Ésaïe, tu as pris toutes nos meurtrissures. Jésus, on a tellement besoin de toi. On a dit, j'ai soif de toi. Seigneur, la soif vient de la terre, la faim vient de la terre, et quand il y a une vraie soif, Seigneur, tu abondes, tu ouvres les écluses des cieux. Pardonne-nous, Seigneur, notre endormissement spirituel. Seigneur, quand on est mieux dans notre canapé, Seigneur, que dans un temps de prière avec toi. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on a délaissé les réunions de prière. Jésus, on veut être en toi, avec toi. Amen.